Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause estivale qui, je l'espère, vous a été profitable. L'histoire que je souhaite vous raconter aujourd'hui est intitulée Le Corbeau et est tirée du Livre des chemins d'Henri Gougaud. Il était une fois, deux fois, maintes fois, une mère et son enfant. La mère berce son enfant. Dehors, le vent d'hiver s'enrage. La cabane tremble, elle a froid. « Dors, mon petit, dors, mon enfant. N'aie pas peur. Ce n'est pas le vent, c'est le chant du mendiant de chance. » Le père, au loin, chasse le renne. Reviendra-t-il ce soir, demain ? Il reviendra, pense la femme, avec sa hache de silex, avec sur l'épaule des viandes, avec des nuages à la bouche et du givre dans les sourcils, avec sa voix qui me fait peur et me rassure en même temps. Il reviendra. Dors, mon enfant. La tempête cogne à la porte. Corbeau croasse sur le seuil. Femme, j'apporte des nouvelles. Ton mari est mort, je l'ai vu. Il est en haut de la falaise, tout en sang, couché sur le flanc. Deux loups lui dévorent les mains. Deux autres, les yeux, la figure. Sa hache est à 10 pas de lui, avec une botte perdue. Je l'ai vu, femme, je l'ai vu. Ce n'est pas mon homme, tu mens. Ne t'éveille pas, mon enfant. Ce n'est que Corbeau, là-devant, qui nous prie d'un peu de pitance. Femme, sa bouche te connaît, et il connaît ton nom. 1, 2. Femme, sa bouche te connaît. Il a dit ton nom à la neige. Il a dit celui de son fils avant que son souffle ne s'éteigne. Le cœur de la femme s'affole. Ses yeux, son sang, son crâne crient. « Ce n'est pas vrai, tais-toi, tu mens !» Elle écoute. La porte grince. Des troupeaux de neige et de vent font gémir l'ombre sous le toit. Les heures passent et Corbeau parle. Malheur précis, impitoyable, cauchemar plus vrai que la vie. Il ricane, il sait tout. Il dit. La femme se prend les oreilles. Elle veut les fermer. À quoi bon, elle entend plus fort au-dedans. Elle espère encore pourtant. Elle se tient à l'affût du temps. Son regard soudain se rallume. Un homme l'appelle dehors. Si loin que c'est peut-être un rêve. C'est le chasseur qui s'en revient. Corbeau, sais-tu, il n'est plus là. Il n'était fait que de nuit noire. Dans la nuit noire, il s'est fondu. Écoute, écoute, mon enfant, n'aie pas peur. Ce n'est pas le vent, c'est le sang de mon corps qui danse. Deux caribous sur les épaules, à la ceinture un sac joufflu, son couteau, sa hache de pierre, l'homme entre, les bras ouverts. Du feu, du grand feu, bonne femme, j'ai froid, j'ai faim. Viens là, petit. Il a sculpté pour son garçon un jouet dans un bois de renne. L'enfant rit. Et sa mère aussi. La raison parle, l'amour chante. Alfred de Vigny. Ce conte de Henri Gougaud nous a transportés dans des contrées lointaines et froides, et pourtant il semble si familier. En effet, qui d'entre nous n'a pas des corbeaux qui croissent au fond de sa tête, de temps à autre ? Vous savez, cette petite voix qui ne cesse d'imaginer le pire, les fameux « et si » dont nous parlions à l'épisode précédent. Cette petite voix qui a tellement de mal à être dans le présent et qui ressasse le passé. Si j'avais eu d'autres parents, j'aurais plus confiance en moi. Et ou qui s'inquiète de l'avenir. Et si mon entreprise devait licencier, je serais peut-être dans le lot. Cette petite voix, nous l'avons tous. Et elle a plus ou moins de force, suivant les moments, mais aussi suivant l'attitude que nous avons vis-à-vis d'elle. George Sand disait qu'elle serait heureuse si elle pouvait juste s'arrêter de penser quelques instants. Si vous vous êtes essayé à la méditation ou si vous la pratiquez régulièrement, vous avez sans doute vu à quel point ces pensées étaient présentes et revenaient sans cesse. Cette petite voix avec son lot de choses désagréables et même parfois effrayantes comme dans notre conte. Ton mari est mort, deux loups lui dévorent les mains, deux autres les yeux. Cette petite voix, donc, peut nous envahir. Le réflexe peut être alors, comme pour cette femme du conte, d'essayer de la faire taire. Tais-toi ! La femme se prend les oreilles, elle veut les fermer, mais ceci est vain car elle entend plus fort au-dedans. En effet, les corbeaux sont à l'intérieur de notre tête et non à l'extérieur. Et paradoxalement, plus nous cherchons à les faire taire, plus nous leur donnons de l'énergie et de l'importance, et donc plus elles vont parler fort. Heureusement, il n'y a pas que des corbeaux dans notre tête, il y a aussi des colombes qui s'expriment. « Ce n'est pas mon homme, tu mens. » Comme dit le conte, la femme espère encore pourtant. C'est intéressant cette notion d'espérance. Pour Bernanos, l'espérance est un risque à courir. À la différence de l'espoir, qui est une spéculation sur l'avenir, l'espérance est une ressource. Rappelons ici que notre cerveau a un biais de négativité qui fait qu'il donne spontanément plus d'attention et d'importance au négatif. On voit ici comme les pensées atteignent la protagoniste. Le cœur de la femme s'affole, ses yeux, son sang, son crâne crie. Comme elle l'impacte, cauchemar plus vrai que la vie. Alors que quand elle entend l'homme qui l'appelle, sa première pensée est celle du doute. C'est si loin que c'est peut-être un rêve. C'est bien connu que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Aussi, plutôt que de faire taire les corbeaux, il s'agit de donner plus d'importance aux colombes, de les écouter, les reconnaître, savoir voir la forêt qui pousse. Reconnaître ce qui va bien et dire merci sur ce qui nous arrive de bien nous incite à percevoir davantage le positif. Plus nous orientons notre attention vers les bonnes choses, plus nous allons les remarquer dans notre environnement. D'où l'intérêt de cultiver la positive attitude. Florence Servan-Schreiber proposait l'exercice des trois kiffs qui peut vous y aider. Il s'agit de prendre un temps chaque soir et de regarder dans le rétroviseur de la journée pour identifier trois kiffs, c'est-à-dire trois moments positifs de la journée. Moment de joie, moment de sérénité, moment de beauté, etc. Personnellement, au bout de quelques semaines à faire cet exercice des trois kiffs, je m'aperçois que dans mes journées, j'apprécie encore plus les bons moments. Et je les vis en me disant que ce soir, je pourrais m'en rappeler et les noter. Je suis plus attentive et donc je profite mieux de ces moments. Cependant, personnellement, je trouve que la pensée positive et les différentes méthodes Kwe, si elles sont nécessaires et sont un bon premier pas vers un mieux vivre et un être serein, il me semble qu'un deuxième pas est aussi nécessaire. Et pour moi, ce deuxième pas, je le nommerais acceptation. Acceptation de ce qui est. Cathy Byron va même jusqu'à dire aimer ce qui est. Arrêter de se disputer avec la vie pour reprendre une de ces expressions que j'aime beaucoup. Thomas d'Azincourt comparait dans une de ses conférences la vie avec un mouvement de balancier, avec des moments up et des moments down. De manière encore plus précise, Frederick Hudson, coach et professeur à l'Université de Columbia, propose de voir notre vie comme une succession de cycles constitués de quatre phases. C'est ce modèle que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, car il permet de prendre conscience de l'existence de ces différents cycles, et donc de mieux les accepter. Un peu comme on accepte que l'année soit divisée en quatre saisons qui se succèdent, et ce serait absurde de lutter contre l'une d'elles sous prétexte qu'on n'aime pas le froid ou l'humidité. Elles sont. et c'est tout. Les saisons existent, de même que les différentes phases du cycle de Hudson existent, mais la bonne nouvelle, c'est que le changement étant permanent, après la pluie, il y a le beau temps, et après l'hiver, le printemps, etc. Alors donc, Hudson distingue quatre phases que je vais vous décrire. Je sais encore une fois qu'il n'est pas toujours évident de prendre des notes lorsqu'on écoute un podcast. Aussi, comme à chaque fois, j'ai formalisé pour vous cet outil et il vous suffit de m'en faire la demande pour que je vous l'envoie en vous rendant sur le site du podcast https://lavieestuncompte.com. Alors allons-y dans le descriptif de ce cycle de Hudson. Quatre phases. La phase 1 est la phase de lancement. Cette phase que l'on peut associer symboliquement à l'été est une phase joyeuse et créative, où l'on a mis l'idée à la minute, une énergie haute. Imaginons par exemple que vous avez décroché le job de vos rêves. Au début, vous vous investissez à fond. Ce que vous faites vous plaît énormément, vous apprenez, vous développez de nouvelles choses, vous êtes très positif et dynamique, etc. Pour mieux illustrer ce modèle de Hudson, j'ai envie de prendre comme exemple l'une de mes clientes que nous allons appeler Fanny. Fanny s'est fait embaucher à un poste de chef de projet RH dans une entreprise qui a décidé de développer le flex office. Elle se voit confier la mission de conduire ce projet avec toute une dimension accompagnement du changement qui la motive particulièrement. Au début, Fanny vit pleinement cette phase de lancement. Elle fourmille d'idées, ne compte pas ses heures. Elle décide d'interroger les salariés sur leurs souhaits pour cette nouvelle configuration des bureaux. Et elle récolte de nombreuses idées de la part de cela. Phase 2, c'est le désenchantement ou l'automne. L'énergie est toujours assez haute, mais l'attitude change, elle est plus négative. Car nous pouvons à ce moment-là avoir l'impression d'avoir fait le tour de ce nouveau job, de ce nouveau projet. Et certaines insatisfactions naissent et nous commençons à émettre certaines plaintes. Alors là, warning, ceci doit être pris comme un signal d'alarme. Si nous ne voulons pas basculer en phase 3 et au contraire revenir en phase 1, ce qui est tout à fait possible dans ce modèle, nous devons apporter les changements nécessaires, c'est-à-dire remettre peut-être de la nouveauté, du challenge dans nos projets. À ce moment-là, Fanny, dans cette phase, est assez déçue car beaucoup d'idées remontées du terrain vont être mises de côté pour des raisons budgétaires ou tout simplement pratiques, et puis aussi parce que ses réunions de projet ne se passent pas comme elle le souhaiterait. Ça traîne un peu en longueur et elle sent de la démotivation dans l'équipe projet, et surtout elle en a marre de l'un d'entre eux qui, selon elle, est un empêcheur de tourner en rond qui freine les projets plus qu'autre chose. Phase 3, le désengagement. Si aucun changement n'a été opéré en phase 2, nous basculons en phase 3, celle associée symboliquement à l'hiver. Pour le coup, notre énergie est plus basse et nous sommes relativement négatifs. Nous nous retirons du monde, nous réduisons notre activité et nous avons tendance à nous isoler. Fanny, dans cette phrase, s'est mise à espacer les réunions de projet. Les travaux avaient pris du retard et certaines décisions n'étaient toujours pas tranchées. À ce moment-là, Fanny se dit qu'elle pourrait anticiper toute la phase d'accompagnement au changement vers ses nouveaux usages, mais elle procrastine et elle a vraiment du mal à s'y mettre. Phase 4, le renouveau ou le printemps. C'est le chemin retrouvé vers ce qui fait sens, c'est un temps de préparation pour examiner des pistes. Quand je rencontre Fanny, elle est en phase 3 et elle se demande ce qu'elle pourrait faire professionnellement. Les travaux sont presque finis, mais elle a très peu avancé au niveau de la communication auprès des salariés. Et il y a eu tellement de compromis de faits, de changements par rapport aux plans initiaux, qu'elle n'est plus très motivée et cherche déjà à se projeter dans une autre étape de sa vie professionnelle, qui aurait plus de sens et qui serait plus au service des personnes. Son entrée dans la phase 4 se fait suite à une revisite de son rôle de chef de projet. Elle se voyait comme une coordinatrice essayant de ménager les envies des uns et des autres, une faiseuse de compromis, pour reprendre ses termes, sans que son avis à elle ne pèse dans la balance, sans qu'elle ne s'autorise à se voir elle aussi comme une salariée et donc aussi comme une utilisatrice finale qui aura également à travailler dans cet environnement. Elle questionne le sens de ce projet et voit bien qu'au-delà de l'économie de mètre carré, il y a une volonté de casser les silos, d'améliorer la communication inter-services. Elle se dit qu'au-delà du livre âme de ces nouveaux locaux, elle, en tant que salariée, a aussi des envies. Elle souhaite que ce lieu soit un lieu de vie, elle se reconnaît des qualités d'animatrice et que ces qualités peuvent ne pas se cantonner à l'animation des réunions de projet. Elle a envie de créer un groupe plus large de salariés sur l'animation des espaces au-delà des contraintes de mobilier et d'organisation. Comment rendre vivant cet espace? Et la voilà bientôt repartie en phase 1 avec une énergie haute et de nombreuses idées. Et vous, professionnellement, où en êtes-vous dans ces cycles? À quelle saison vous situez-vous? Comment pouvez-vous au mieux profiter de cette phase et que pouvez-vous faire pour faire un nouveau commencement? L'hiver est une période de vide fertile et un passage nécessaire qui conduit au printemps puis à l'été. Si vous vous sentez en phase 2, que les insatisfactions pointent leur bout de leur nez, sachez les écouter et vous demander quel besoin chez moi n'est plus satisfait et comment faire pour qu'il le soit. Comment puis-je être proactif dans la situation plutôt que de me laisser entraîner en phase 3? Je vous laisse avec ce questionnement. Je vous remercie pour votre écoute de l'épisode de ce jour et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons de la visite d'une maison et de la réussite sociale. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !